Bonjour à vous, frères et sœurs à travers le monde. Nous espérons que vous avez tous passé une bonne fête en Amérique, en Europe, en Asie, aux Antilles, en Afrique. Nous devons tous prier Dieu fervemment que Dieu répande son esprit sur chacun de nos sites de fête, que nous soyons encouragés, fortifiés, inspirés au cours de cette fête. Frères et sœurs, nous sommes la continuation de la vraie Église de Dieu fondée par le Christ et qui a continué ensuite à travers l'apôtre Jean, Polycarpe, puis Polycrate, ensuite Pierre Valdo, et par après Herbert W. Armstrong, qui a été mon enseignant personnel. Il m'a baptisé, il m'a enseigné, c'est lui qui m'a marié, il m'a enseigné la voie de vie de Dieu plus que tout autre. L'Église de Dieu a continué depuis l'an 31 de notre ère. Dieu a toujours eu une vraie Église qui a observé ses commandements et qui a célébré ses fêtes. Et nous sommes ici aujourd'hui parce que Dieu nous dit de le faire dans la Bible. Il ne commande pas d'observer la fête de Noël ou les Pâques, comme vous savez. Peut-être que c'est votre première fête des tabernacles pour certains d'entre vous, mais ces mots-là ne sont même pas mentionnés dans la Bible. Noël et les Pâques, absolument pas. Dieu nous a donné des fêtes précises. Et une de ces fêtes, c'est la fête des tabernacles que nous célébrons aujourd'hui. Nous sommes bien sûr des pionniers. Nous ne sommes pas les seuls observant la fête, nous le savons, mais nous, dans cette Église, nous sommes les pionniers principaux de l'œuvre de Dieu et nous l'accomplissons, cette œuvre, au temps de la fin, pour atteindre les nations. Allez à Zacharie, chapitre 14 et le verset 16. Ça parle du retour du Christ qui est prochain en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Regardez au verset 16. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations après le retour du Christ, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Pensez-y, toutes les nations de la terre, tous les êtres humains sur la terre, un jour vont se joindre à nous pour célébrer cette fête des tabernacles que nous célébrons. Et ça va commencer d'ici 20 ans, 10 ans ou moins. Verset 17, « S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » Dieu va leur parler avec un langage qu'ils pourront comprendre. Les gens vont cesser d'argumenter contre le sabbat de Dieu et contre les jours saints de Dieu. Les gens vont vouloir obéir. Et s'ils ne le font pas, ils seront punis. Regardez le verset 18. « Si la famille d'Égypte, si les Égyptiens ne montent pas pour célébrer la fête, si elle ne vient pas, cette famille d'Égypte, la pluie ne tombera pas sur elle. » Sinon, si ce n'est pas suffisant, Dieu ajoutera des plaies par la suite. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations. Pensez-y. Lisez ceci avec attention. Il dit que toutes les nations de la terre vont observer la fête des tabernacles d'ici quelques brèves années où ils n'auront pas de pluie pour commencer et sinon, Dieu va y ajouter des plaies s'il continue à se rebeller. Dieu veut que nous célébrions ces jours saints. Les fêtes de Dieu décrivent son plan. C'est très important. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Dieu nous dit d'observer ces fêtes. Ça fait partie de son plan. Frères et sœurs, ma première fête des tabernacles, ça a été à l'automne de 1949, lorsque je suis venu à l'ambassadeur collège. J'avais 19 ans à l'époque. J'ai entendu M. Armstrong à cette première fête des tabernacles. Il nous a enseigné les choses fondamentales de la Bible. Et cet homme, à cette fête, a donné 17 sermons. Il a donné le message de la soirée d'ouverture. Et après ça, il a donné 2 sermons par jour, comme c'était la coutume à l'époque dans l'Église. C'est lui-même qui les a donnés personnellement durant toute cette fête. Il nous a montré le plan de Dieu à travers ça. Il s'est référé aussi à certains commentaires en parlant de Daniel 11 et ainsi de suite. Il a cité, par exemple, le livre des deux Babylones qui explique les fêtes païennes du monde, comment ces fêtes-là sont venues à être répandues dans le monde. M. Armstrong a donné 17 sermons à ce petit troupeau. On était 75 personnes environ à ce moment-là, des gens très engagés à servir Dieu. Ils étaient là pour adorer le grand Dieu et pour apprendre le but de la vie. Ils avaient entendu cette voix à la radio. « Hey, bonjour, frères et sœurs à travers le monde. » M. Armstrong était sur les ondes de la radio à ce moment-là. Il annonçait le message du monde de demain dans toute la nation. Et vous pouviez l'entendre à Los Angeles, vous pouviez l'entendre à la radio à San Antonio, en allant vers l'Est, et dans de plus en plus de stations aux États-Unis, principalement dans le Sud au début. Les gens entendaient cette voix soir après soir, et ces gens-là étaient là à la fête avec enthousiasme. Et l'Église a cru à raison de 30 % par année au cours de ces années-là. C'était l'ère de Philadelphie, de l'Église de Dieu. Elle a grandi, grandi, grandi en grandeur et en puissance. Pourquoi nous observons la fête? Parce que ça nous montre le plan de Dieu. Le plan qu'il réalise actuellement sur la face de la terre. Allez à Lévitique chapitre 23, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 23. Nous allons voir simplement les grandes lignes ici. Lévitique 23, verset 1. À ce moment-là, les sacrifices avaient été ajoutés aux fêtes et ils avaient été ajoutés au sabbat hebdomadaire. Il y avait même des sacrifices qui étaient offerts chaque matin et chaque soir. C'était la loi sacrificielle. À partir de la venue du Christ, l'agneau parfait de Dieu, la loi sacrificielle a été enlevée, a été abolie, mais les lois spirituelles de Dieu, elles, n'ont jamais été abolies. Ici, Dieu mentionne ses sept jours saints et il commence par son Saint-Sabbat hebdomadaire, Lévitique 23, verset 2. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de sainte convocation. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat. » Et il décrit ici le sabbat hebdomadaire, la première fête dans son plan. Il dit, après ça, verset 4, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. » Une convocation, frères et sœurs, c'est un commandement de nous assembler en présence de Dieu. Ce n'est pas une simple invitation à un rendez-vous pour prendre le thé, absolument pas. Dieu nous ordonne de nous présenter devant lui, de nous assembler, de saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé, dans certaines versions, à leur saison, et c'est plus précis avec le terme « à leur saison ». En Palestine, il y avait une petite récolte au printemps et une grande récolte à l'automne, et ça représente le plan de Dieu. Dieu appelle d'abord une toute petite récolte, un petit troupeau qui est appelé maintenant, et après le retour de Christ, il y aura une grande moisson où l'ensemble de l'humanité vivant à ce moment-là seront rappelés. Et par après, tous ceux qui ont vécu dans l'histoire reviendront à la vie et auront leur chance de connaître le vrai Dieu. Alors, il dit après ça, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ici, c'est le sacrifice qui était offert, le petit agneau qui représentait le sacrifice parfait du Christ qui allait venir. Et après, il dit, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Ce pain sans levain représente le fait que nous devons sortir du péché. À la Pâque, le Christ est mort, nous acceptons son sacrifice, nous sommes baptisés et nous travaillons à sortir du péché avec son aide. Le levain représente le péché qu'on doit enlever de nos vies. Dieu nous dit de faire ces choses-là. Par après, vient un peu plus loin dans le chapitre, la fête de la Pentecôte. Et il faut compter 50 jours à partir du lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, comme on voit au verset 15, qui sera agitée de côté et d'autre. Donc, on compte 50 jours après le sabbat, durant la fête des pains sans levain. Et on arrive à ce moment-là au 50e jour. Vous compterez 7 semaines entières, verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voilà le jour des premiers fruits, la petite récolte que Dieu appelle maintenant. C'est la petite récolte que Dieu appelle à ce moment-ci. Ce sont les premiers fruits, ces prémices. Et la fête que nous célébrons représente cette petite église qui est appelée maintenant. Allons au verset 24. Maintenant, parle aux enfants d'Israël et dit, « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Alors ici, il est question de la fête des trompettes et ça décrit le retour du Christ à un moment de grande détresse, de guerre, à la fin de notre époque. Ça parle du temps de la fin ici. On voit que ces fêtes-là arrivent au 7e mois. Il y a 7 fêtes. Il y a les 7 églises. Pour Dieu, ça a une signification. Le chiffre 7 représente quelque chose de parfait, quelque chose de complet. Comme le chiffre 12 représente le début d'une chose organisée. Alors bientôt, il y aura un temps de guerre incroyable comme il n'y a jamais eu dans l'histoire. Nous approchons de ce temps-là et il nous faut être proche de Dieu. Ce monde devient fou, vous le savez. De plus en plus, on fait la promotion de mariage d'hommes avec hommes et de femmes avec femmes. C'est chose insensée. Les gens rejettent la nature dans laquelle Dieu les a faits, se détournent de la façon d'être heureux, ce qui détruit la famille, et les gens se coupent du Créateur qui nous dit quoi faire pour être heureux. Ils haïssent Dieu. Les êtres humains haïssent ce Dieu qui leur dit quoi faire. Il est écrit dans Romains 8, verset 7, que la nature humaine est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Ça décrit la nature humaine. Les gens ne veulent pas faire ce que Dieu dit. Comme M. Armstrong disait, si Dieu nous avait dit d'observer Noël, qu'est-ce que les humains auraient fait? Ils ne l'auraient pas célébré. Si Dieu avait commandé de prendre un arbre, un sapin, un arbre vert et de le décorer, nous ne l'aurions pas fait. Les humains, en tant qu'êtres charnels, ne veulent pas faire ce que Dieu veut. Nous sommes appelés à sortir de ce monde-là. C'est pourquoi nous devons faire ce que Dieu dit. On doit en être imprégné de cette idée-là et la mettre en pratique. Il faut la comprendre. Ce monde est en train de s'auto-détruire. Notre monde ne sera plus le même d'ici quelques brèves années. Les choses changent tellement rapidement maintenant. La fête des trompettes approche. La réalisation de cette prophétie, un temps de chaos, de désespoir et de détresse jamais vu auparavant. Verset 27, il dit « Le dixième jour de ce septième mois, le mois de complétion, le mois de ce qui devient complet, il dit « Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. » Ça représente le jour où Satan sera banni. Après le retour du Christ, un ange puissant enchaînera Satan et l'enfermera pour l'empêcher de nuire pendant 1000 ans. Ce sera la prochaine chose qui va arriver après le retour de Christ. C'est ce qui est représenté par la fête des expiations. Donc, il faut humilier nos âmes. On doit jeûner ce jour-là pour réaliser notre besoin absolu de Dieu, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel encore davantage. Donc, nous humilions nos âmes, c'est-à-dire nous jeûnons ce jour-là. Et comme il dit au verset 31, « Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est un sabbat, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, vous jeûnerez, dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. » Ça nous dit en même temps comment Dieu compte le temps, à quel moment les jours commencent. Et regardez le verset 34 maintenant. Parle aux enfants d'Israël et dit « Le 15e jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles. » C'est appelé aussi la fête des tentes parce que ça représente trois choses. Ça représente le temps où Israël habitait sous des tentes. Ça nous rappelle aussi que nous sommes des étrangers, des passagers sur la terre. Nous ne serons plus dans cette société très longtemps maintenant. Nous y sommes temporairement. Comme à la fête des tabernacles, nous sommes dans des habitations temporaires. Nous avons quitté nos demeures permanentes chez nous et nous sommes ici pendant la fête des tabernacles, la fête des tentes. Ça nous rappelle aussi, bien sûr, le grand plan de Dieu. Quand Dieu va appeler tout le reste de l'humanité qui sera vivant après le retour de Christ. Allons à Exode, chapitre 34. Maintenant, Exode, chapitre 34 et le verset 22, où il est question de ces deux époques de récolte. Tu célébreras la fête des semaines. Voici la fête de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'on compte 7 semaines, comme on a vu tantôt, pour déterminer le jour de la Pentecôte. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, c'est-à-dire des premiers fruits de la moisson, la petite moisson du printemps, du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Voici la grande moisson que Dieu accomplira après le retour du Christ. Alors que tous ceux qui seront encore vivants seront appelés à ce moment-là et comprendront le plan de Dieu. Après ça, il y a le dernier grand jour qui représente le temps où tous ceux qui ont vécu dans l'histoire seront ramenés à la vie et auront leur chance de connaître le vrai Dieu. Ce sera la grande récolte, même l'immense récolte à la toute fin. Dans Exode 23, verset 16, on en parle comme étant la fête de la moisson. C'est le même terme pour parler de la récolte que Dieu fait, mais par étapes. Allons maintenant à Deutéronome chapitre 14, s'il vous plaît, Deutéronome chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 22, ce sont des instructions de Dieu. C'est très inspirant ce que Dieu nous a dit de faire, c'est un autre commandement. Il dit, tu lèveras la dîme. Il nous a parlé avant ça d'une première dîme qui va à l'Église pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais voici, il parle ici d'une deuxième dîme. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Donc, c'est une deuxième dîme. Ce n'est pas pour l'Église, pour que l'Église accomplisse sa mission d'annoncer l'Évangile. Ici, cette deuxième dîme-là, elle est prélevée régulièrement sur nos revenus et mise de côté pour que nous puissions aller à la fête chaque année, pour que nous puissions nous réjouir, manger des bonnes choses, faire des activités intéressantes. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton moût, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Il y a un Dieu réel, il faut le savoir, en être convaincu, et vous remarquez que Dieu commence à intervenir de plus en plus directement dans les affaires du monde. Les nations sont en grand déclin. La puissance de la bête commence à apparaître et le faux prophète va apparaître bientôt. Il va accomplir de grands miracles. Toutes sortes de choses commencent à se réaliser. Il y a un Dieu réel qui a averti ces choses-là. J'ai vu la réalisation de ces prophéties-là. Je me rappelle, M. Armstrong, au moment où l'Allemagne, dans la Deuxième Guerre mondiale, était pulvérisée, était à genoux, M. Armstrong disait, l'Allemagne sera de nouveau sur ses pieds. Ils vont devenir la nation la plus puissante de l'Europe, diriger l'Europe. Et il a dit, l'Europe de l'Est va se libérer de la botte soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, les pays catholiques. Il a été le seul à dire ça. Il a dit, certaines de ces nations-là vont devoir faire partie du dernier groupe de nations appelé la bête. Personne d'autre n'a annoncé ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'était le ministre de Dieu. C'est lui qui nous a enseigné ces fêtes-là que nous célébrons aujourd'hui. Dieu le lui avait révélé. Nous devons apprendre à craindre l'Éternel, comme on voit au verset 23. Il faut que Dieu soit réel pour nous. On doit sentir la présence de Dieu ici. Le supplier de se manifester davantage, même au cours de cette fête. Verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom? Il dit alors, tu pourras changer. Là, tu achèteras, verset 26, avec l'argent, tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. On doit se réjouir à cette fête, mais avec modération. Dieu condamne l'ivrognerie et les excès. N'agissez pas de cette façon-là. Il dit, tu te réjouiras, toi et ta famille, devant l'Éternel, ton Dieu. Remerciez Dieu. Réjouissez-vous. Exprimez votre reconnaissance envers Dieu. Réalisez que Dieu est là, que son esprit est là. Et il le sera davantage si nous lui demandons et si nous nous approchons de lui en ces temps spéciaux. Dieu a placé son nom là où vous célébrez la fête. J'espère que vous allez le réaliser et y goûter, le réaliser de plus en plus. Faites votre part pour ça. Allons à Deutéronome chapitre 16, maintenant juste un peu plus loin. Deutéronome chapitre 16, et nous allons commencer à lire au verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, encore 7 jours, le nombre de complétion, de perfection, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. Et le Lévite, les ministres qui sont avec vous, encouragez-les, partagez avec eux. L'étranger, l'orphelin et la veuve qui sera dans tes portes, tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Pourquoi? Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. On doit se réjouir devant notre Créateur. C'est lui qui vous donne ces choses. On doit apprendre à se réjouir, à l'en remercier, à adorer ce grand Dieu qui nous a donné la vie, le respire, la nourriture, le vêtement, le logement, tout ce que nous avons. Je veux vous en parler un peu. Il nous faut tous apprendre à adorer Dieu plus que jamais auparavant, alors que nous approchons de la fin. Soit que notre vie s'approche de sa fin, ou soit que, et c'est le cas, la fin de ce monde s'approche. Il faut que Dieu devienne plus réel pour chacun d'entre nous. Un des hommes selon le cœur de Dieu, c'est le roi David. Allez à Psaume 104. Psaume 104 et le verset 24. Nous allons voir ce que cet homme selon le cœur de Dieu a dit. « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan. » Ici, il est question probablement d'une créature qui a disparu au cours de l'histoire, comme certaines espèces, comme plusieurs espèces, en fait, ont disparu au cours de l'histoire. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face et ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle et ils expirent et retournent à leur poussière. Dans un sens, les animaux comptent sur Dieu, pour ainsi dire, parce que tout ce qu'ils peuvent manger pour survivre, c'est Dieu qui l'a créé, et il l'a créé pour eux également. Les animaux vont chercher, chacun selon son espèce, leur nourriture. Dans notre cas, Dieu nous donne la pluie en sa saison pour que nous ayons la nourriture. Et Dieu nous bénit de façon extraordinaire, particulièrement aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi à Dieu et a gardé ses commandements. Et nous le savons. C'est marqué dans Genèse 26, verset 5. Nous avons ces bénédictions à cause de l'obéissance d'Abraham et remercions Dieu de ses bénédictions pendant que nous les avons. Verset 29, tu caches ta face et ils sont tremblants, tu retires le souffle, ils expirent et ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Pensez à Dieu, au soleil merveilleux, à la lune, aux étoiles, au cosmos d'une profondeur inouïe. Pensez au beau visage des petits-enfants, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Et vous savez, mes amis, Dieu va ébranler la terre comme jamais auparavant, sous peu. Toute montagne et toute île sera déplacée de son lieu. Et vous saurez, tous sauront, qu'il existe un vrai Dieu. Le monde sera réveillé. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. » C'est ce que David a dit. David aimait et adorait Dieu. Souvent, il a observé le ciel le soir en célébrant Dieu et en le remerciant. Faisons-le. Nous avons trop tendance de nos jours à faire des jeux vidéo et à se concentrer sur nos petits écrans. Nous nous éloignons de la belle création de Dieu. Regardez le ciel, regardez les étoiles, la lune, les belles choses que Dieu a créées. C'est ce grand Dieu qui nous donne le souffle de vie, la nourriture, qui nous donne une belle épouse, des beaux enfants, des beaux petits-enfants. Nous devons remercier Dieu, nous devons l'adorer, apprécier ce qu'il nous donne. Ce grand Dieu qui nous donne tout ce qui est bon et tout ce qui est juste. David continue en disant, « Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir. » Il dit, « Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Tant que j'existerai, je vais célébrer ce Dieu, je vais m'efforcer de lui obéir. Que mes paroles lui soient agréables. » Verset 34, « Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. » Et dans les versions originales, c'est « Alléluia », c'est-à-dire « Louez l'Éternel ». Formidable. On voit la chaleur, l'intensité de l'admiration et de l'adoration de David ici pour son Créateur. Faites-le au cours de cette fête. Priez Dieu, adorez-le, qu'il soit plus réel pour vous. Regardez vos frères et vos sœurs autour de vous. Aidez-les, encouragez-les, servez-les de façon chrétienne. Que cet amour se répande autour de vous dans l'Église. Ce sont vos frères et vos sœurs dans la même famille, quelle que soit leur race, quelle que soit leur taille, leur âge, leur culture. Levez-vous chaque matin et regardez vers le ciel si vous avez une fenêtre là où vous êtes. Moi, j'essaie de faire ça le plus souvent possible. Je me rappelle, même lorsque je suis allé chez mon fils à Phoenix il y a plusieurs années, j'avais trouvé une petite pièce à côté de ma chambre à coucher où il y avait une belle grande fenêtre. Je pouvais me mettre à genoux devant cette fenêtre-là et je regardais le ciel pour prier Dieu et ça m'inspirait beaucoup. Faites-le, vous allez voir, ça encourage. Si vous pouvez le faire, faites-le. J'ai commencé ma vie de prière, vous savez, au sous-sol d'un édifice du campus de l'Ambassadeur Collège. Au sous-sol, il n'y avait pas d'endroit où aller prier. J'ai trouvé un placard à balai, il n'y avait pas de fenêtre et je me mettais à genoux sur le ciment et je mettais des journaux sous mes genoux pour que ça soit moins dur. Chaque matin, il faut aller devant Dieu avant de faire quoi que ce soit. Peut-être vous allez vous rafraîchir à la salle de bain, mais après, avant de commencer quoi que ce soit, priez Dieu, adorez-le, remettez votre vie et votre journée entre ses mains. Réfléchissez à comment il est en train de vous faire à son image. C'est lui qui a fait tout ce qui existe, c'est lui qui vous a donné la vie. Et il nous enseigne des leçons qui vont durer pour toute l'éternité. Il travaille avec nous, il nous développe, il nous transforme, il nous sculpte, pour que nous devenions de plus en plus comme il est. Il a envoyé Jésus-Christ pour vivre en nous, par son esprit. Adorons-le et remercions-le pour tout ça. Remercions-le pour les gens qu'il appelle, pour nos amis, pour les gens de nos familles. Adorons profondément notre Créateur. Marchons avec lui, parlons-lui, qu'il devienne de plus en plus réel pour vous. Concentrez-vous là-dessus et que Dieu devienne de plus en plus réel encore au cours de cette fête. Demandez-lui de répandre son esprit de plus en plus sur chacun de nous à travers le monde et de bénir son petit peuple et que nous nous approchions de plus en plus de lui, surtout au cours de cette fête. C'est le temps de nous réjouir. Bien sûr, on peut prendre de bonne nourriture, prendre un peu de vin et tout ça, visiter des belles choses, mais ce n'est pas la chose principale. Goûtons ces choses-là, mais nous venons devant Dieu d'abord pour apprendre à lui obéir. Je me rappelle en 1949, 50 et 51, la fête avait lieu à Belknap Springs, en Oregon. On n'avait pas beaucoup de choses physiques à utiliser. Nous avions nos réunions dans un immense chalet en bois rond. C'était pas grand comme un hôtel. On se rencontrait là pour les assembler. La plupart d'entre nous, nous étions dans des petits motels autour ou dans des roulottes. Je me rappelle de certaines familles qui venaient du Texas, d'autres venaient de l'Arkansas. Certaines étaient venues du sud et étaient montées en Oregon. Je me rappelle, il y avait le matin des vapeurs matinales qui s'élevaient des sources qu'il y avait à Belknap. C'est pour ça qu'on appelle ça Belknap Hot Spring, c'est-à-dire les sources chaudes de Belknap. Il n'y avait pas de restaurant tout proche. On mangeait ensemble, on parlait beaucoup, on rêvait des choses à venir et nous apprenions le but de la vie. Faites-le durant cette fête. Concentrez-vous sur les choses spirituelles de la fête. Vous savez, les choses physiques ne seront plus là. Sous peu, pensez-y. Allons à Colossiens maintenant, chapitre 3. Voici l'attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes convertis vraiment dans l'Église de Dieu. Colossiens, chapitre 3. Dieu a inspiré Paul d'écrire ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, autrement dit, si vous avez été baptisé, vous êtes sorti des eaux du baptême en tant que créature nouvelle. Qu'est-ce que vous devez rechercher d'abord? Plus de nourriture physique, plus de steak, plus d'activité. Ce ne sont pas des choses mauvaises, bien sûr. Il faut les faire avec mesure, avec modération, avec appréciation, à la fête, dans l'esprit de famille, mais ce n'est pas la chose principale. La principale chose, c'est que vous avez été ressuscité avec le Christ en sortant des eaux du baptême. Et si ça a été le cas, cherchez les choses d'en haut. Dieu veut faire de vous un être spirituel éternel dans sa propre famille, de même nature que lui et que le Christ. Il faut le comprendre, cet avenir grandiose. Il dit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Imaginez-vous que le Christ est là, c'est votre sauveur, c'est votre souverain sacrificateur. Il est à la droite de Dieu maintenant, c'est notre grand roi à venir. Attachez-vous, verset 2, aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Faites-le davantage au cours de cette fête. Mettez votre attention sur le Christ. Priez davantage à la fête. Je ne dirais pas faites plus d'études bibliques parce que vous avez tous les sermons et ensuite on revise nos notes quand on revient à la chambre et tout ça. Mais priez davantage et réfléchissez à ces choses-là. Verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Vous avez passé par les eaux du baptême. Et quand vous êtes sorti des eaux du baptême, vous avez pris l'engagement de marcher en nouveauté de vie. Votre ancien ego est mort. Votre vieux moi est décédé. Il n'existe plus. Vous appartenez à Dieu. Et vous devez demander à Christ de vivre sa vie en vous, par son Saint-Esprit. Il dit, verset 4, « Quand le Christ, votre vie, c'est tout le sens de la vie, le Christ en nous, la vie éternelle en nous, en tant que dépôt maintenant, quand Christ, votre vie éternelle, paraîtra, lorsqu'il viendra pour la deuxième fois, cette fois-là, il va venir dans la gloire, et chaque montagne, chaque île sera déplacée. Les anges l'accompagneront. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà votre avenir. Il nous faut avoir cet amour envers Dieu, cette adoration envers Dieu, notre Père, envers le Christ qui est à sa droite. Et il faut avoir beaucoup de fraternisation chaleureuse envers nos frères et nos sœurs, ces enfants potentiels de la famille de Dieu qui sont autour de nous à la fête. Nous sommes ici pour célébrer la fête des tabernacles et pour adorer notre Créateur. Frères et sœurs, prions avec ferveur comme jamais. Étudions, méditons. Prenez soin d'écouter les sermons. Prenez des notes. Pensez-y. Prenez le temps de méditer ces choses-là et d'adorer Dieu. Réjouissez-vous dans le plan merveilleux de Dieu que seule cette Église comprend. Dieu a un amour extraordinaire pour chacun d'entre nous, pour chacun de ceux qui l'appellent. Frères et sœurs, allez dormir maintenant, prenez une bonne nuit de sommeil, priez Dieu avant de dormir, passez une bonne nuit de sommeil et je vous dis à demain pour le premier jour de la fête des tabernacles.